Bonsoir, bienvenue dans cette édition des Tribunes de la Presse qui vous propose deux thèmes à savoir. Actualité politique en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de la majorité présidentielle affirme que les futurs membres du gouvernement seront choisis au sein de la famille politique du chef de l'État selon leurs compétences et leur amour du pays. Pour lui, il ne sera pas question d'un partage des postes ministériels par des partis politiques. Province du Nord Kivu, 22 députés sur les 42 que compte l'Assemblée provinciale viennent de signer une motion de défiance contre le gouverneur de cette province. Ces députés accusent Julien Paluku non seulement d'avoir interdit à l'Assemblée provinciale d'y travailler, mais aussi de faire obstruction au déroulement d'une mission de contrôle sur sa gestion des 6 derniers mois. Motion qui rejette le gouverneur de la province. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Bélard Mbouy, le directeur général du journal La Renaissance de la Nation. C'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Bélard Mbouy.
Bonsoir Guy.
Harold Bellarmin Badibanga, il est journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir et TGA, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Harold Bellarmin Badibanga.
Bonsoir estimés confrères.
Et Mathieu Mpokoudi, il est éditeur du journal Embouchure, c'est un hebdomadaire qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Bonsoir Mathieu Mpokoudi.
Bonsoir confrère.
Déclaration d'Aubin Minaku sur les critères de choix des futurs membres du gouvernement. Au Nord Kivu, 22 députés provinciaux signent une motion de défiance contre le gouverneur de cette province. Écoutons cette revue de presse qui nous présente Samuel Kachak pour savoir comment la presse a traité ce thème.
Bonsoir. Formation du gouvernement. Les ministres seront choisis sur base de leurs compétences. Titre l'Observateur. Le quotidien rapporte que le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minaku, a rejeté mardi 7 février dernier l'idée d'un partage des postes ministériels entre partis politiques. Il a déclaré que les membres du prochain gouvernement seront choisis au sein de la famille politique du chef de l'État en tenant compte de leurs compétences et de leur attachement aux valeurs du pays. Le potentiel de son côté parlant de la primature voit le président Kabila devant un choix judicieux. Selon le quotidien, il ne serait pas inutile d'envisager de faire appel à un technocrate au poste de premier ministre, quitte à lui de faire des recommandations sur le paysage politique afin qu'il en tienne compte dans les choix des compétences pour maintenir l'équilibre géopolitique. L'essentiel est que le choix soit judicieux, conclut le journal. La prospérité signe, nouveau gouvernement, informateur, dénonce circule déjà. Le quotidien révèle qu'il s'avère que le PPRD demeure la première force de la majorité présidentielle, suivie du MSR et de beaucoup d'autres. Depuis, la bataille a commencé, note la prospérité, qui s'interroge, qui dirigerait la primature. Certains citent Adolphe Lumano Mulenda, qui serait pressenti informateur. D'autres encore estiment que l'heure est arrivée de récompenser les efforts du secrétaire général du PPRD, Évariste Boshab, qui aurait été sur tous les fronts. Terminons cette revue de presse avec le Nord Kivu, où des partis d'opposition demandent la réouverture de l'Assemblée provinciale, note l'Observateur. Le quotidien révèle que ces partis l'ont fait savoir dans un communiqué conjoint publié samedi de la semaine dernière et qualifie cette décision d'anticonstitutionnelle. Il faut souligner enfin que parmi les autres sujets ayant fait la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa figure l'empêchement de voyager, puis l'arrestation de Jacquemain Chabani, secrétaire général de l'UDPS, et la médiation internationale de l'ancien président ghanéen John Kufuor, accompagné du révérend Jean-Pierre Moka afin de trouver des solutions aux graves insuffisances du processus électoral en cours en République démocratique du Congo.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire, Bélard Mbouy. Vous êtes directeur général du journal La Renaissance de la Nation. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi le secrétaire général de l'UDPS qui a été empêché de voyager et puis arrêté et relâché.
Oui, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver dans notre pays. Dans une république qui se respecte, on ne procède pas de cette manière-là. Imaginez que Cet homme, Jacquemin Chaban-Iluko, devait se rendre à une invitation dans un pays partenaire et ami comme l'Allemagne, un pays de vieille démocratie. Et lorsque ceux qui l'ont invité apprennent qu'on l'a pris à l'aéroport, on l'a amené, non pas par la police, mais par les services de sécurité, parce que c'était la nerf, qu'on l'a amené, qu'on l'a cagoulé, qu'on l'a battu, qu'on a essayé de le noyer. Et vous imaginez ce que ça donne comme image de notre pays à l'extérieur. Je ne sais pas ce que ça donne à ce genre de choses, s'ils en imaginent les conséquences. Et demain, lorsqu'on va voir que cela a suscité des réactions négatives de la part des Congolais qui se trouvent dans des pays où ils ont juste la liberté de protester, on va dire, voilà pourquoi est-ce qu'ils protestent, voilà pourquoi est-ce qu'ils nous agressent, alors que vous êtes en train au pays de semer la graine qui cause, qui engendre leur haine.
Il ne faut pas non plus encourager la violence.
Je n'encourage pas, mais qu'est-ce qu'on a fait contre Jacquemin là? C'est pas la violence? C'est ça justement la violence. Dans ce pays, lorsque j'entends partout même, j'entends des communiqués, il ne faut pas qu'il y ait la violence, il ne faut pas qu'il y ait la violence. C'est comme si on s'adressait à l'opposition. Mais en fait, l'auteur principal de la violence dans ce pays, c'est le gouvernement. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est au gouvernement qu'on doit dire, n'utilisez pas la police pour violenter la population. C'est surtout ça.
Harold Bellarmé Badibanga, vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA en sigle. L'autre actualité, c'est la presse hein, qui annonce les négociations politiques à Bruxelles, en Belgique, du 22 au 27 mars prochain, auxquelles sont conviées la classe politique congolaise et les forces vives de la nation.
Oui, mon commentaire par rapport à ça, c'est justement quelqu'un qui a dit en philosophie du langage que le dialogue est un agent pacificateur des conflits interhumains. Je vois, je lis cette information avec satisfaction quand je sais que, étant fils d'une même nation, au cas où il y a un petit problème, il y a toujours possibilité de se mettre autour d'une table d'en parler. Mais ce qu'il faille préciser à ce niveau, Guy, c'est que dialogue, oui, mais table rase de l'ordre politique issu des élections du 28 novembre, non, parce que si on va à cette table ronde, à ces négociations avec envie total de faire la table rase des efforts de la population congolaise par rapport aux élections qui ont eu lieu en 2011 au 28 novembre, c'est comme si on encourage implicitement la prise de pouvoir par concession et conciliabule sans pour autant penser au fait que le seul mode d'accession au pouvoir depuis un certain temps au Congo, ce sont les urnes et donc la volonté du souverain primaire.
Merci Mathieu Mpokoudi, vous êtes éditeur du journal Amochure, c'est un hebdomadaire qui paraît à Matadi au Bas-Congo. C'est quoi l'actualité à la une dans cette ville?
Oui, comme vous le savez, chez nous, dans la province du Bas-Congo, l'actualité reste dominée par la disparition de l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Comme vous le savez, le doyen François Kimasi Matuiku et pratiquement toute la classe politique se retrouve actuellement à Kisantu où les funérailles ont été organisées en mémoire de l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Et c'est demain qui sera porté en terre dans le territoire de Kasangoulou où il a acquis une ferme pendant qu'il était aux affaires. Quoi. Donc voilà un peu l'actualité dans la province et par rapport à la disparition de l'ancien président Kinasi.
Merci. Notre premier thème de ce soir, actualité politique en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de la majorité présidentielle affirme que les futurs membres du gouvernement seront choisis au sein de la famille politique du chef de l'État selon leurs compétences et leur amour du pays. Pour lui, il ne sera pas question d'un partage des postes ministériels par des partis politique. Après la publication des résultats provisoires des législatives par la CENI, l'attention est tournée actuellement vers la formation du prochain gouvernement. À ce sujet, précisément, le secrétaire général de la majorité présidentielle a affirmé mardi dernier à Radio Okapi qu'il ne sera pas question d'un partage des postes ministériels par des partis politiques. Pour Aubin Minaku, les membres du prochain gouvernement seront tirés au sein de la majorité selon leurs compétences et amour du pays. Aubin Minaku, joint par Michel Kifindangoy.
Il n'y a pas partage, il y aura répartition des attributions pour atteindre l'objectif en conformité avec notre projet de société. La primature revient à la majorité parlementaire. Là, c'est clair. Mais il faut patienter, attendre que l'autorité morale puisse savoir d'où viendra le Premier ministre.
Pensez-vous qu'il puisse recourir à l'expertise de certains membres de l'opposition dans la formation du prochain gouvernement?
Bon, d'abord, je m'en tiens au principe. Le principe, c'est qu'il y a une majorité qui gouverne, il y a un groupe qui doit jouer le rôle de contrepoids. Et c'est important, le contrepoids, dans un cadre démocratique. Donc, il nous faut une opposition au Congo.
Belamboui, après la lutte pour les élections, maintenant les politiques luttent pour participer au prochain gouvernement. Et vous venez de suivre le propos d'Aubin Minaku qui s'est exprimé à ce sujet. Comment vous analysez les propos d'Aubin Minaku?
Bon, disons d'abord que les gens ne luttent pas, les politiciens ne luttent pas pour entrer au gouvernement. Les gens de la famille politique de l'État sont en droit tout à fait légitime d'attendre, d'espérer leur entrée au gouvernement. Je crois que c'est tout à fait naturel puisque ils ont gagné. C'est la première chose que je dois dire ici. La deuxième chose, je crois que ça tombe sous le sens. On doit prendre les membres du gouvernement en fonction de leurs compétences, cela va de soi, je ne pense pas qu'il faille vraiment le répéter, c'est tout à fait normal aussi. Troisième chose que peut-être Robin Minaku n'a pas dite, c'est qu'on doit nommer les ministres en fonction de l'importance de leur parti politique également à l'issue de ces élections. Je crois au moins qu'à ce niveau, l'AMP avait été extrêmement claire. Parce qu'en 2006, il avait été totalement un fourre-tout, se retrouver avec des résultats. Il fallait maintenant voir comment faire entrer qui dans le gouvernement, qui a obtenu combien. Je crois qu'ils étaient arrivés jusqu'à faire entrer au gouvernement ceux qui avaient un minimum de 3 députés nationaux.
4 députés.
Non, en 2006, le Panadien en avait 3.
Ah bon?
Voilà. Le Panadi en avait 3. Il a eu d'abord 2 vice-ministres, Madame Yamoulemi et Gervais Ntirumenyerwa. Par la suite, Madame Yamoulemi est sortie, Gervais Ntirumenyerwa est resté. Donc voilà. La CCI de Mende également en avait que 3. Bien. Maintenant, la MP qui a succédé à l'AMP a dû fixer ses principes à l'avance. Cette fois-ci, à 5 députés pour de pouvoir espérer entrer au gouvernement. Eh bien, ceux qui ont eu un minimum de 5 doivent revendiquer naturellement leur droit d'entrer au gouvernement.
Là, c'est pas par rapport au bureau politique de la MP. Il a dit dans cette charte que les partis qui ont gagné 5 sièges à l'Assemblée nationale peuvent devenir membres du bureau politique de la MP.
Leur président automatiquement entre au bureau politique et ce parti-là a droit de pouvoir désigner un membre du gouvernement.
Mais lorsque Aubin Minaku dit que cette fois-ci, il ne va pas s'agir d'un partage de pouvoir avec les partis politiques, comment vous comprenez cela?
Non, quand il parle de partage de pouvoir, c'est dans le cadre de toute la classe politique, en ce compris l'opposition, c'est cela. Et c'est la quatrième et dernière chose que je devais justement aborder pour dire ceci. Aubin Minaku dit qu'il faut qu'il y ait dans ce pays une majorité et qu'il y ait également une opposition qui s'oppose, qui fait le contrepoids. Mais la condition principale est que la majorité soit réellement une majorité et que l'opposition soit réellement une opposition. C'est-à-dire que la première ait effectivement gagné les élections et que la deuxième les ait réellement perdues. Bien, quand nous regardons la façon dont nos élections se sont passées, tous les rapports qui sont sortis, je n'en ai vu aucun de sérieux qui dit que ces élections s'étaient passées dans de bonnes conditions. Au point que actuellement, vous l'avez dit dans l'entrée des jeux avec Harold Bellarmine, qu'il va y avoir une table ronde à Bruxelles. Dans quel pays, voyez-vous, on fait une table ronde quelque part, d'où les préciser dans l'objet, c'est d'aborder les graves irrégularités qu'on a enregistrées au cours des élections.
Évidemment, on n'a pas encore défini les points qui seront inscrits à l'ordre du jour de ces négociations.
L'objet est là, c'est officiel. Il faut plancher sur les graves irrégularités qui ont entaché les élections, le processus électoral en cours.
Votre source dit.
Mais c'est sorti dans le journal, je crois, La Référence Plus. C'est comme ça. Alors, s'il y a de telles irrégularités et qu'on n'est même pas au point où on ne peut même pas encore être très sûr de savoir quelle est la vraie majorité, quelle est la vraie opposition, c'est au Congolais de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir parce que là, effectivement, il y a crise.
Harold Bellarmé Badibanga, apparemment Bellarmé Bouy vous fait rire.
Oui, c'est vrai qu'il a raison dans ce qu'il a dit, mais il y a un peu trop de sel dans l'eau à un certain moment. Je commence par les propos du secrétaire général de la majorité présidentielle, Obenminaku, lorsqu'il dit il n'y aura pas plutôt partage de pouvoir, mais plutôt répartition des sièges. Je constate qu'il n'y a pas différence entre partage et répartition des sièges, mais il y a plutôt de petites nuances qui n'ont rien à voir, parce que les modes d'entrée au gouvernement, donc la désignation des ministres ou des ministrables, il est connu, c'est lorsque un parti politique, une formation politique a su réaliser un nombre déterminé par la charte de la majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale, que cette formation politique, disais-je, peut se prévaloir d'avoir un poste de ministre ou de vice-ministre. Alors, quand on évite le partage, on parle de la répartition. La répartition ne va se faire qu'entre les partis politiques de la majorité. Donc, c'est une même chose. On ne veut peut-être pas léser certaines sensibilités en parlant du partage, parce que la jurisprudence a su faire voir dans ce pays que lorsqu'on parle du partage de pouvoir, on fait allusion à ce partage du gâteau après la guerre, et que le pouvoir était à un certain moment considéré comme un butin de la guerre. Je crois que c'est cela dans sa portée politique.
Donc cela veut dire que les principes consignés dans la charte de la majorité présidentielle, selon lesquels les partis qui s'amènent avec 5 sièges a droit à un poste ministériel, ces principes seront démises.
Oui, mais ce sont des principes qu'on ne peut pas mettre de côté, étant donné que les conventions à venir entre partis tiennent lieu de loi auprès des partis qui les ont faites. Sinon, faire table rase de ces principes-là, arrêter avant même les élections, serait créer une vendetta au sein de la majorité. Je ne crois pas que quand le secrétaire général de la majorité présidentielle fait la part des choses entre le partage et la répartition, il veut dire une chose et son contraire. Il s'agit juste du partage de ce pouvoir-là, mais entre les partis politiques membres de la majorité. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que j'ai aimé Obenminaku lorsqu'il se limite dans les principes. Nous avons vu sous d'autres cieux la majorité dont chaque pays a besoin, mais prendre quand même quelques pions majeurs jugés importants au sein de l'opposition pour faire avec du point de vue de leur expertise. Je suis bien d'accord avec ceux qui pensent que au regard de la sensibilité de la question, le président de la République peut prendre un premier ministre même dans l'opposition, peut prendre le premier ministre même en dehors du PPRD, mais à une seule condition, que ce premier ministre soit technocrate, que ce premier ministre réponde à toutes les attentes de la population.
Mais lorsque le secrétaire général de la majorité présidentielle dit que les futurs membres du gouvernement seront choisis au sein de la famille politique du chef de l'État.
Non, il se limite en ce que je sache au niveau des principes qui veulent que pour accéder à la gestion de la chose publique, on doit être de la famille politique ayant remporté les élections et ou ayant eu la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais pour la bonne gouverne de la chose publique, pour des intérêts majeurs de la nation, la majorité elle-même qui s'est constituée au niveau de l'Assemblée nationale peut s'y lécher, tendre la perche à l'opposition au cas où l'on estime, par exemple, que pour des postes spécifiques et stratégiques, on a besoin de l'expertise de tel individu, de l'opposition. Et le chef de l'État lui-même a, en tant que garant de la nation, cette prérogative-là de jouer à ce jeu. Mais c'est un cas qui est très différent de celui qui peut advenir au cas où il y a négociation politique telle qu'annoncée, que on peut se démarquer de ces principes contenus dans la Constitution pour que désormais, au regard de contestations des uns et des autres des élections de 2011, que, par exemple, la primature vienne la primature soit prise par l'opposition. Mais là où je ne suis pas aussi d'accord avec Bébélard, c'est lorsqu'il pense que la majorité doit vraiment l'être, l'opposition doit vraiment l'être, comme si il ne s'est pas rendu compte que tous ceux qui ont dit que les élections ne se sont pas passées dans de bonnes conditions n'ont pas su donner une seule preuve de ces mauvaises conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées. Moi, j'ai même cité une ONG d'observation électorale, l'Eurodécic, à qui j'ai posé la question dans un point de presse irrelatif. Et ces représentants du RODESIC ont dit que les résultats leur apportés par les observateurs du RODESIC et ceux donnés par la Commission électorale nationale indépendante n'ont pas de totale différence. Ça veut tout simplement dire que du président de la République au dernier huissier de la République, tout le monde est d'accord qu'il y a eu des irrégularités, mais seulement ces irrégularités ne sont pas étranges. Autant il y en a eu aux États-Unis et l'ordre politique est resté le même, il y en a eu en Belgique. On ne peut pas évoquer ces irrégularités pour demander la table rase des élections ou prétendre à l'illégitimité du pouvoir en place.
Merci Bédarmé Badibanga. Mathieu Poukoudi, votre point de vue par rapport au propos d'Aubin Minaku qui dit que les futurs membres du gouvernement seront choisis au sein de la famille politique du chef de l'État.
Oui, merci beaucoup, mais je voudrais revenir en arrière pour dire que voilà le bien fondé de la révision de la Constitution par rapport au mode de scrutin à l'élection présidentielle. Parce qu'en fait, en amont, si déjà nous avions le deuxième tour à l'élection présidentielle, tout naturellement, les partis politiques parleraient du partage de postes en amont. Mais en fait, avec le tour unique, tout dépend du poids politique que représente le parti politique à l'Assemblée nationale. Il est évident que le secrétaire général de la majorité présidentielle pose les principes démocratiques qu'il voudrait que nous ayons, d'une part, une majorité et de l'autre une opposition. Donc moi, je ne trouve aucun inconvénient à ce que le membre du gouvernement soit ceux de la majorité pour autant qu'ils ont gagné les élections. En fait, ce que je pourrais moi demander à l'opposition aujourd'hui, c'est d'accepter les résultats des élections, de s'organiser pour que demain ou aujourd'hui, cette opposition soit capable réellement de faire le contrepoids. Vous vous rappelez du temps de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il y a eu des débats très intéressants où l'opposition s'exprimait, où le pouvoir était même mis en ballotage, parce qu'en fait, il y a des animateurs de l'opposition qui étaient capables de faire changer les choses. Et c'est ce à quoi la population aspire. On ne peut pas faire de la politique pour, par la suite, aboutir sur des négociations, sur des compromissions, pour que demain, qu'on devienne membre du gouvernement. C'est là où je trouve que, soit on est politicien, par idéal, ou alors on est politicien par opportunisme.
Mathieu Poukoudi, ne pensez-vous pas que le contexte actuel est propice à la mise en place d'un gouvernement composite où opposition-majorité travaillerait ensemble?
Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, cela remettrait en cause les élections qui ont été organisées le 28 novembre. Donc moi, je crois qu'il y a un problème. Il faut que la majorité ait un idéal, tout comme l'opposition aussi. Si l'opposition n'a pas d'idéal dans son combat, alors à quoi servirait d'être opposant? On aurait dû être tous de la majorité et gérer comme il se doit, ensemble, au lieu de se faire passer pour des opposants. Le moment est donc venu pour que l'opposition s'assume, pour que l'opposition prenne une attitude, de manière à ce que nous puissions préparer l'alternance demain. Et c'est ça la piste de sortie pour nous.
Bélard Mouilly, par rapport aux critères qui ont été énoncés par Aubin Minaku, il parle de la compétence, il parle de l'amour du pays. Tout ceci n'est-il pas subjectif? On va se baser sur quels critères pour savoir que tel est compétent, il est patriote? Sur quels critères va-t-on se baser?
Eh bien, je crois que c'est ça l'art de la politique. Hein. Lorsqu'on a des responsabilités au sommet de l'État, on doit pouvoir avoir la capacité de juger ceux qui travaillent avec vous ou qui doivent, ou qui aspirent à travailler avec vous. Cela va de soi.
Vous les jugez en fonction de leur, de leur expérience, de leur
oui,
passé,
de leur
réputation.
De leur formation, de leur expérience professionnelle. Vous savez que si le président de la République a besoin d'avoir une note sur une personne donnée, ce n'est pas impossible. On peut lui dire, voilà, ses points forts, ses faiblesses, et, quitte à lui maintenant de se faire une idée sur la personne en question et ne pas courir le risque de nommer encore un fantôme au gouvernement comme ça a été le cas en 2006.
Ah bon, il y avait un fantôme?
Mais bien sûr, Kasongo Ilunga en a nommé au commerce extérieur un ministre qui n'existait pas. Bien, c'est cela. Donc, on devrait veiller cette fois-ci à éviter de telles erreurs.
Mais il est de notoriété publique que les compétences, c'est ce qui manque à ces pays.
Non,
il y a toujours eu des gens compétents.
Ce qui manque, ce qui a souvent manqué, c'est la conscience. Moi, quand je regarde tous ces gens qui sont à l'AMP, qui sont des présidents de partis politiques, je regarde Alarc, Olivier Kamita, tout, je vois Opéper de Bochab, Mina, ou même à l'AMP elle-même. Écoutez, c'est des messieurs, c'est des gens bien formés, voilà. Que les autres ne maintiennent pas rigueur, hein, qu'ils ne soient pas jaloux. Je peux en citer autant à l'AMP, ils sont très nombreux. Autant l'opposition également, c'est des gens qui peuvent franchement tenir des ministères et les gérer avec compétence s'ils veulent pratiquement travailler avec la conscience, ce qui nous a souvent fait défaut. Mais à ce niveau de débat, j'aimerais quand même dire quelque chose parce que Bellarmé Badi Bangama quand même apostrophé quelque part en disant que toutes les ONG qui ont parlé, personne n'a apporté la moindre preuve des irrégularités. C'est vrai qu'on ne va pas refaire ce débat-là aujourd'hui. Mais excusez-moi quand même, Bellarmé, on a mis sur plusieurs sites internet les PV scannés, s'il vous plaît, de plusieurs bureaux de vote au Katanga où les voix de M. Tshisekedi avaient été terriblement réduites par la CENI. Et les voix du candidat numéro 3, Joseph Kabila, augmentaient d'autant que c'était réduit de ce qu'il dit. On a tout ça sur Internet aujourd'hui, sur le site de l'UNC. Regardez, on joue de toutes ces preuves-là aujourd'hui. Eh bien, ce qui est important, c'est de dire ceci. Dans une démocratie, ceux qui gouvernent doivent effectivement avoir la légitimité. Sinon, pourquoi aller à une élection si c'est pour que demain on jure la volonté de ceux qui sont allés voter. Les gens vont se décourager finalement pour aller voter. C'est ça le principe qu'il faut respecter réellement. Et là, s'il y a cette conférence à Bruxelles, c'est parce qu'il y a eu de graves irrégularités. C'est ça qui est dit dans le
voilà.
Dans le document.
Maintenant, on revient.
Il faut qu'on en tienne compte.
On revient à la déclaration du secrétaire général et de la majorité présidentielle au Obeminaku. Pensez-vous que cette déclaration était opportune? Fallait-il vraiment la faire?
Je crois qu'elle est opportune d'un côté, parce qu'il faut, il a, comme Bellarmé l'a dit, Obeminaku énonce les principes de base. Sur le plan des principes, il a totalement raison. En fait, dans une démocratie, dans le meilleur des mondes démocratiques, c'est les partis membres de la majorité parlementaire qui peuvent se prévaloir du droit d'entrer au gouvernement. C'est tout à fait logique. Et il ne faut pas qu'il y ait de tripatouillage, non. Sauf si on a besoin d'une expertise particulière de Bellarmé qui est en face de moi, par exemple, qui n'est pas membre de la majorité, bien on peut recourir à lui. Ça, ce serait une exception.
Harold Bellarmé Badibanga, ne pensez-vous pas que cette déclaration a suscité des inquiétudes dans certains esprits dans les esprits de certains membres de la majorité présidentielle?
Oui, mais que cela ait suscité des inquiétudes, le contraire m'étonnerait. Moi, je m'en réjouis parce que le choix lui-même, de par son essence, le choix, c'est le fruit d'une discrimination. Et la discrimination n'est toujours pas mauvaise. Entre les meilleurs, entre plusieurs meilleurs, on a besoin de deux ou trois meilleurs. Et c'est ceux-là qui vont faire partie du gouvernement. Quand on parle, par exemple, Guy, du patriotisme, mais moi, je ne vais pas loin en cherchant les patriotes. Les patriotes, par rapport à leur passé, ce sont des gens qui n'ont jamais trempé dans les malversations financières contre le trésor de la République. Ce sont ceux qui n'ont jamais détourné. Il sera trop malsain, par exemple, pour le secrétaire général de la majorité présidentielle de faire aligner au gouvernement des gens qui ont été je ne dis pas trempés, mais qui ont été simplement soupçonnés d'un léger détournement même d'une aiguille de la République. Nous avons besoin d'une nouvelle race au gouvernement.
Et vous pensez qu'il sera possible d'établir que tel a trempé et tel autre n'a jamais trempé?
Si c'est pas possible d'établir, mais sur base de simples soupçons et de ce qu'on a déjà vécu, il y a des gens dont les mains sont sales et cela, et c'est un secret des polichinelles, du moins pour ceux-là dont les soupçons pèsent, du moins pour ceux-là dont les faits sont avérés, ne fût-ce que pour honorer le souverain primaire qui a donné ce pouvoir à la majorité, il serait de la bonne politique de les écarter.
Et qu'est-ce qu'on fait du principe de la présomption d'innocence?
La présomption d'innocence, ce principe-là, Guy, s'applique seulement devant les cours et tribunaux. Lorsqu'un prévenu arrive, le juge n'a pas le droit de le traiter comme un condamné. Mais par besoin de probité morale dans la gestion de la chose publique, avant que le juge ne se soit prononcé sur la culpabilité ou non de ce monsieur-là, sur base de ce principe de la présomption de l'innocence, on se réserve d'utiliser les gens dont les soupçons pèsent. Dans les pays sérieux, ces gens-là, non seulement ils n'attendent pas être mis de côté, mais eux-mêmes se réservent de postuler à des charges publiques officielles.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Province du Nord Kivu, 22 députés sur les 42 que compte l'Assemblée provinciale viennent de signer une motion de défiance contre le gouverneur de cette province. Ces députés accusent Julien Paluku non seulement d'avoir interdit à l'Assemblée provinciale de travailler, mais aussi de faire obstruction au déroulement d'une mission de contrôle sur sa gestion des 6 derniers mois. Motion qui rejette le gouverneur des provinces. À Goma, 22 députés sur les 42 que compte l'Assemblée provinciale vient de signer une motion de défiance contre le gouverneur du Nord Kivu. Cette motion a été déposée lundi dernier au bureau de l'Assemblée provinciale qui devait la transmettre dans les 48 heures au gouverneur des provinces. Les signataires de la motion accusent Julien Paluku Kaongia non seulement d'avoir interdit à l'Assemblée provinciale de travailler, mais aussi de faire obstruction au déroulement d'une mission de contrôle qui devait inspecter sur sa gestion des 6 derniers mois. L'initiateur de la motion, le député provincial Mwindon Zangi Butondo explique.
On reproche au gouverneur de province d'avoir empêché l'Assemblée provinciale de travailler, puisque l'Assemblée provinciale a constitué une commission de contrôle pour essayer d'examiner la manière dont il a géré pendant ces 6 derniers mois l'effort de la province. Il a empêché à la commission de pouvoir travailler, aller même jusqu'à boucler la scène de l'Assemblée provinciale. Et les députés provinciaux ont dit, c'est-à-dire il y a des indices sérieux de détournement de fonds qu'il a voulu cacher. Et comme il nous empêche de travailler, c'est-à-dire qu'il n'a plus confiance en nous, et nous retirons notre confiance à lui. C'est pour cela qu'ils ont initié la motion de défiance contre le gouverneur de province. Et je vous dis que la motion est signée par 22 députés, 22 des 42 députés, c'est-à-dire la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Tout ce qu'on peut demander au gouverneur maintenant, c'est qu'il n'a plus d'autre choix que de quitter et de laisser la province être dirigée par des gens qui vont se soucier cette fois-ci de la population.
Le gouverneur de province estime de son côté que le document signé par les motionnaires n'est qu'un tract signé dans la rue. Mathieu Mpukudi, vous êtes à Matadi au Bas-Congo, une des rares provinces qui n'ont pas connu ce genre de situation. Comment vous analysez la situation qui prévaut au Nord Kivu?
Oui, tout à fait. Le Bas-Congo pourrait être considéré comme une province modèle par rapport à la collaboration devant exister entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial. Mais en fait, par rapport à la situation qui se passe à Goma, je dirais d'abord d'entrée de jeu que c'est quand même malheureux. Le malheur, c'est que les acteurs politiques, et même étatiques, n'acceptent pas le jeu démocratique. Je ne peux pas comprendre qu'un gouverneur de province puisse interdire l'organe délibérant, duquel d'ailleurs il est l'émanation, qui puisse se réunir et travailler normalement. Ça, c'est bizarre. Et je ne comprends pas comment lui peut avoir autant de pouvoir pour interdire à l'Assemblée nationale de travailler ou de fonctionner. C'est là où je trouve qu'il y a un problème même dans l'acceptation de la démocratie, dans l'acceptation plutôt des valeurs républicaines. Nous, à Matadi, nous percevons cela très mal, étant donné que nous avons toujours souhaité à ce qui est la collaboration entre les délibérants et l'exécutif. Et nous trouvons qu'il y a réellement un problème de gestion au niveau de la province du Nord Kivu. Voilà un peu notre lecture par rapport à ce qui se passe à Goma. Et c'est quand même malheureux, parce que dans tout ça, c'est la population qui en pâtit.
Bellar Mbouyi, parmi les griefs qui sont formulés par les députés provinciaux contre le gouverneur Julien Paluku, il accuse d'avoir interdit à l'Assemblée provinciale de travailler. Mais cette accusation est rejetée par le gouverneur. On se rappelle que le 20 janvier dernier, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur avait, à travers un télégramme, suspendu la session extraordinaire de cette Assemblée provinciale.
Disons que cette énième crise au Nord qui vous pose un problème de fond.
C'est quoi ce problème de fond?
Quelle est l'articulation des pouvoirs en République démocratique du Congo entre le pouvoir central, représenté par le gouvernement central, l'Assemblée nationale, et les pouvoirs au niveau des provinces? Ce problème est un problème majeur qui nous a causé trop de problèmes depuis l'indépendance de ce pays. Nous avons déjà connu deux sécessions au Katanga et au sud Kasaï à cause de ce problème. Vous imaginez Moïse Tshombe, gouverneur du Katanga, un ministre de l'Intérieur ici, envoie un télégramme pour demander à la police d'empêcher l'Assemblée du Katanga de se réunir. Vous alliez provoquer l'indépendance du Katanga le même jour à l'époque. Sous Mobutu, nous avons connu, à l'inverse, une centralisation à outrance, un jacobinisme très fort, qui fait que finalement, les provinces sont devenues de simples entités qui dépendaient du bon vouloir du gouvernement central. Même pour faire un petit pont du quartier, il fallait avoir l'aval du gouvernement central. Alors, révolté par cet état des choses, avec la conférence nationale, l'UDPS qui s'est créée en 82, réclame carrément l'instauration du fédéralisme pour pouvoir briser avec ce jacobinisme à outrance. C'est ainsi que la conférence nationale souveraine se réunit et réclame l'instauration du fédéralisme. Et le nom même du pays que la conférence nationale adopte, c'est République fédérale du Congo, pour le régime d'après-élection. Bien, l'AFDL est arrivé, puis il y a eu Sand City, puis il y a eu ce régime actuel, issu de Sand City, mais qui avait quand même conféré, même sans aller au fédéralisme comme tel, une certaine centralisation, mais avec une forte décentralisation, un régime unitaire à forte décentralisation. Mais avec la révision constitutionnelle qu'il y a eu, qui permet même au président de la République, sous certaines conditions, de dissoudre l'Assemblée provinciale et de démettre le gouverneur de province, nous sommes retournés au jacobinisme de type mobutiste à l'époque. Qu'est-ce qui se passe donc? Le gouverneur sont devenus des simples commis entre les mains du gouvernement central. Donc,
le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur dit que s'il a pris cette décision, c'était pour lui une façon de prévenir les troubles à l'ordre public.
Oui, j'étais encore sur le plan des principes, en fait. Le vice-premier ministre n'a justement pas à faire ce genre de problème. Parce qu'est-ce qu'on remarque, maintenant je peux rentrer dans les faits tels que nous en parlons maintenant. Regarde qu'est-ce qui se passe. Depuis le régime qui a été institué depuis les élections de 2006, comment se comporte-t-il? Nous disons que le Bas-Congo n'a pas connu de crise. Si, il a connu de crise, mais la crise a été gérée de manière républicaine. Le président Kima, si dont nous avons parlé, d'heureuse mémoire, a été...
L'ancien président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo.
L'Assemblée provinciale du Bas-Congo est tombé suite à une motion de défiance. Mais puisque Kimasi n'intéressait personne à Kinshasa, on a laissé le régime démocratique fonctionner correctement. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque, que ce soit le président de l'Assemblée provinciale ou le gouverneur, n'est pas de l'obédience du gouvernement AMP en place. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, Roger Ntsingi a été renversé par une motion régulière. C'est le gouvernement central qui a utilisé la force. Ça, c'est une violation de la Constitution pour imposer Roger Ntsingi à demeurer à la tête de l'Assemblée provinciale parce que Roger Ntsingi, bien que l'UMLC, avait viré de bord.
Donc vous voulez
c'est
dire
comme
que,
ça qu'on a fait aussi à l'Équateur.
Vous voulez dire que en prenant une telle décision, le gouvernement central cherchait à protéger...
Le gouvernement central cherche à protéger Paluku. Julien Paluku. Pourquoi? Parce que Julien Paluku, bien qu'étant du RCD-KML, a préféré tourner le dos à son président Boussa Nyamouissi, qui était le même candidat à la présidence de la République, pour soutenir Joseph Kabila. Alors, en récompense, on voit un groupe de députés provinciaux qui ont l'audace de vouloir convoquer une assemblée, une session extraordinaire pour aller contrôler la gestion des finances de...
Mais ils en ont le pouvoir.
Justement, ils doivent avoir ce pouvoir-là parce que Palou a soutenu Joseph Kabila au pouvoir, à la campagne électorale.
Non, parmi les missions, voilà pourquoi... parmi les missions des députés provinciaux, il y a aussi celle qui consiste à contrôler la gestion de l'exécutif.
C'est au peuple maintenant d'apprécier ça. Ils ont ce pouvoir-là, mais on les empêche de fonctionner. Il faut pas oublier aussi autre chose. Le vice-premier ministre, c'est le pouvoir exécutif. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu, d'ailleurs, c'est le pouvoir législatif. Si un pouvoir commence à empêcher l'autre de fonctionner, c'est le coup d'État permanent, c'est la haute trahison, ça.
Harold Benarmé Badibanga, le gouverneur Julien Paluku qualifie cette motion de tracte parce que selon lui, c'est une motion qui a été signée dans la rue.
C'est une blague de mauvais goût. C'est dans le chef du gouverneur parce que ayant empêché les élus du peuple de siéger en bonne et due forme dans leur siège ordinaire légalement établi, ils se sont rendus compte que parce qu'il y a une vendetta qui s'est instaurée au sein de la province et qu'ils ne peuvent pas siéger régulièrement, ils ont peut-être siégé en chambre foraine, c'est-à-dire dans une salle autre que celle de tous les jours. Et lorsqu'on qualifie ça de tract, apparemment on ne sait pas ce que ça veut dire tract. Le tract, c'est ce document-là dont les auteurs ne sont pas identifiés par leur signature. Mais là, je vois tout un document avec toutes les signatures.
Mais à votre avis, quelle pourrait être la valeur juridique d'un document qui est établi, pas au sein de l'hémicycle, mais en dehors de l'hémicycle?
Non, la valeur juridique d'un document ne dépend pas du lieu où il a été concocté ou signé. La valeur juridique dépend de la qualité de la personne de son signataire. Ça, tous les juristes qui nous suivent ne sauront pas nous contredire. Surtout que le cas échéant, les députés ont voulu siéger dans leur milieu constitutionnellement établi, mais ils ont été empêchés. Mais ce que je veux dire au-delà de tout ça, c'est que l'objectif de la décentralisation et l'objectif du fédéralisme, c'est le fait de rapprocher le centre décisionnel du souverain primaire. Bela Mbouya a démontré qu'à un certain moment de notre histoire, même pour remblayer le trou d'une route, on avait besoin de la décision du président fondateur, et c'est ça qui a créé la recrudescence de la République. C'est pour dire que la décentralisation est l'antichambre du fédéralisme. Ici, et on a tendance à non seulement à faire de la République démocratique du Congo un champ de patates douces dans lequel chacun peut faire ce qu'il peut, mais on refuse illico de respecter la séparation des pouvoirs. C'est très grave. Lorsque les députés provinciaux estiment que pour la bonne gestion de leur province, légalement élus, ils se disent, nous interpellons le gouverneur. Le gouverneur se comporte en Léviathan, il dit, vous ne siégez pas. Et pire encore.
Mais la décision ne vient pas du gouverneur, la décision vient de Kinshasa.
C'est ce qui est très grave encore. C'est ce qui est très grave encore parce que la bonne façon de faire pour le vice-premier ministre chargé de l'intérieur et de la sécurité, c'est permettre à la démocratie de fonctionner. On peut avoir de protéger, on peut ne pas les avoir, mais lorsqu'on offusque le fonctionnement de la démocratie, on ouvre d'une manière ou d'une autre la boîte à Pandore. La meilleure façon de faire aurait été celle dont Lumanu Mulenda Bonansefo a fait lorsque il a interpellé le gouverneur de la province du Kasaï occidental et le gardé ici. Si l'on dit on ne voulait pas occasionner du désordre, mais il aurait suffi d'un mot d'ordre au gouverneur qui s'opposait au fait que l'Assemblée provinciale siège pour qu'il n'y ait pas du désordre. Je me demande dans ce cas-là, le désordre viendrait des députés provinciaux qui ont le droit et la prérogative de contrôler le gouvernement provincial ou le désordre serait venu de celui qui les a empêchés de siéger. Je crois qu'on ne peut pas habiller Saint-Paul pour déshabiller Saint-Pierre. J'ai toujours dit, Guy, cette République nous appartient tous, nous y avons les mêmes droits, les mêmes devoirs et le mal, d'où qu'ils viennent, de qui ils viennent, C'est le mal, et il n'est pas de nature à favoriser l'émergence de la République démocratique du Congo, qui est notre bien à nous tous.
Mathieu Mpokoudi, je rappelle que vous êtes éditeur du journal L'Embouchure, c'est un hebdomadaire qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Parmi les 22 députés qui ont signé la motion, il y en a qui se sont présentés à la députation nationale sous les labels d'autres partis politiques, et donc de ces faits, ils ont perdu leur mandat à l'Assemblée provinciale, et c'est pourquoi d'ailleurs les gouverneurs Julien Paluku pense qu'il ne peut pas se soumettre au contrôle des gens qui n'ont plus qualité.
Non, je voudrais d'abord dire que même s'ils ont été élus, même s'ils ont été candidats à la députation nationale, c'est que jusque-là, en attendant d'avoir la validation du mandat, ils restent députés provinciaux. Personne ne peut dire aujourd'hui, comme ils ont été élus, ils peuvent initier des missions de contrôle. Non, c'est faux. Donc en fait, ils sont encore députés provinciaux, et pour lesquels l'État leur reconnaît, ou la Constitution plutôt, leur reconnaît le mandat ou la mission de contrôler l'exécutif provincial. Et à ce niveau-là, je trouve qu'il y a réellement un problème. Même si le gouverneur Paluku voudrait cacher des choses, la meilleure façon serait de le faire proprement, au lieu de cracher sur l'institution qui vous a donné le pouvoir, l'institution qui vous a mandaté. Vous voyez, donc il y a un problème réellement dans la gestion dans la gestion des institutions entre l'exécutif et les délibérants. Et là aussi, je voudrais dire une chose. Si déjà au niveau de la vice-primature, le vice-premier ministre donne des ordres, il dit par rapport à un éventuel désordre à survenir dans la province. Mais le vice-premier ministre doit démontrer que réellement, si des ordres sont en vue, si le désordre est en vue, il doit prouver, il viendrait des cris, des cris plutôt. Parce qu'en fait, quand je vois le député provincial, quand je vois le gouverneur, c'est celui qui est soupçonné dans tel ou tel autre dossier qui est capable de tout brouiller. Donc moi, je ne vois pas le député provincial mettre la province à feu à sang parce qu'il y a quelqu'un qui dérange. Non! Les hommes passent, les institutions restent. Même si Denis Paluku partait, la province du Nord qui vous restera, et il va toujours lutter pour le compte du chef de l'État. Je ne vois pas pourquoi, je dirais, sacrifier toute une province au profit d'un individu.
Bélard Mouilly, vous êtes directeur général du journal La Renaissance de la Nation, c'est une hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Parmi ces 22 députés, il y en a qui se sont présentés à la députation nationale sous les labels d'autres partis politiques. Cela veut dire qu'ils ont, à partir du moment où ils ont quitté leur parti politique pour lequel ils siégeaient à l'Assemblée provinciale, ils ont automatiquement perdu leur mandat. Oui. Est-ce que ce genre de personnes peuvent encore aujourd'hui estimer qu'ils peuvent continuer à jouer leur rôle de députés alors qu'ils n'ont plus qualité?
Exactement, ils doivent continuer à jouer le rôle de députés. Pourquoi? Parce qu'en droit, tout cela doit se constater officiellement. Ça veut dire ceci. Il faut qu'il y ait eu, justement, il fallait justement qu'il y ait cette session extraordinaire. Les partis qui se sont sentis lésés doivent saisir officiellement l'Assemblée provinciale. Leur dire voilà, XY était chez nous en allant se présenter sur telle ou telle autre liste de tel autre parti. Il a donc démissionné. Veuillez donc procéder à son remplacement. Tant que cela n'est pas fait, ces gens restent députés provinciaux en bonne et due forme. C'est comme ça que ça se fonctionne. Mais j'aimerais quand même profiter pour ajouter juste une petite chose. Je sais que le temps de notre parti approche à sa fin. Il y a des principes élémentaires qui régissent les démocraties. Les gouvernements provinciaux sont conçus sur le modèle de régime parlementaire. C'est-à-dire qu'ils sont l'émanation des assemblées provinciales en fonction de la majorité parlementaire qui a été constituée à l'issue d'élections données. Bien, à partir de là, si vous-même, vous constatez que vous avez perdu cette majorité-là, vous ne pouvez même plus parler, même si vous l'avez constaté en dehors d'une assemblée, vous pouvez déjà parfois vous démissionner. Et enfin, j'aimerais dire ceci, de quel désordre parle-t-on? Si notre Assemblée nationale décide de faire une motion de défiance contre le gouvernement central, le ministre va envoyer la police encercler, boucler le palais du peuple. Ça n'a aucun sens. Et partout où il y a eu des ordres, c'est chaque fois où le gouvernement central est intervenu. Ce fut le cas à l'Équateur, ce fut le cas au Kassai occidental, quand on a voulu maintenir Kapuku Trésor coûte que coûte, et on a vu le résultat au Kassai occidental.
Merci. Harold Bellarmé Badibanga, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, émettant depuis Kinshasa. Le départ de ces députés provinciaux de leurs partis politiques initiaux doit être constaté. Mais lorsque vous lisez le document en fait la motion de défiance qui a été signée par ces différents députés provinciaux. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la session extraordinaire, nulle part il n'est dit que on devait procéder à l'invalidation des députés provinciaux qui avaient postulé sous le label d'autres partis politiques.
C'est pour dire, Guy, que la raison selon laquelle ces députés n'ont pas qualité parce qu'ayant quitté leur parti politique, se sont présentés et sous le label d'autres partis politiques, c'est un raccordement frauduleux qui n'a rien à voir avec l'affaire qui est en train d'être traitée pour le moment. Bien au contraire, ceux qui évoquent ça, on leur oppose le principe général de droit qui dit « nul ne peut être entendu alléguant sa propre turpitude ». Vous ne pouvez pas justifier la fermeture ou l'empêchement des députés provinciaux élus du peuple à siéger parce qu'il y a défaut de qualité. Lorsque vous avez constaté qu'il y a défaut de qualité, qu'avez-vous fait pour les déposséder de cette qualité? Donc c'est un raccordement frauduleux qui n'a rien à voir avec la réalité en face.
Merci, c'est la fin de cette émission. Mimi Kindou était à la technique et Kaline Koutel à la réalisation, assistée de Samuel Kachak et de José Junior Owawa, sous la supervision de Martin Sebou Djangwe. Devant ce micro, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.